fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
L'abécédaire. Chronique du 9e art sous forme d'abécédaire. Elle, comme Little Nemo. De nos jours, la bande dessinée est considérée comme un art à part entière, au même titre que la musique, la littérature, le cinéma et même la radio. Mais il ne faut pas oublier que cette reconnaissance est récente. Bien qu'il soit né avant le cinéma, le 9e art a dû attendre longtemps avant de gagner ses lettres de noblesse. Au début de sa carrière, la bande dessinée était tout juste bonne à emballer des poissons. Pour bien comprendre dans quel contexte est né Little Nemo et l'importance que cette série a eue sur l'histoire de la bande dessinée américaine, il nous faut faire un bond en arrière d'un peu plus d'un siècle et nous pencher sur les balbutiements de ce qui deviendra le 9e art. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Les progrès technologiques de la photogravure permettent désormais d'imprimer en très grande quantité des pages en couleur, ce qui va intéresser de près deux grands patrons de journaux américains qui se livrent alors une guerre sans merci pour dominer le monde de la presse, William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer. Conscient qu'une partie de la population des États-Unis est composée d'immigrants illettrés et que l'image est donc primordiale pour toucher plus de lecteurs, les deux concurrents vont se lancer dans une bataille rangée à coups de suppléments dominicaux en couleur qui accueillent des photographies, des dessins et de la bande dessinée. En mai 1894, Joseph Pulitzer publie donc le premier comic strip de l'histoire dans son journal Le New York World. Un exemple suivi très rapidement par son concurrent, William Randolph Hearst, et par tous les patrons de presse qui ne veulent pas rester sur le carreau. En ouvrant leurs journaux, les lecteurs de l'époque découvrent donc pendant la semaine des histoires en quelques cases et en noir et blanc, appelées daily strips, et retrouvent chaque dimanche des histoires plus élaborées sur une pleine page et en couleur, les Sunday strips. En quelques années, les comic strips sont devenus incontournables et les personnages les plus populaires se retrouvent au centre de procès retentissants opposant les différents journaux qui les publient. Mais malgré cet intérêt grandissant pour la bande dessinée, le support éphémère des périodiques incite les dessinateurs à surtout travailler sur des gags à la construction rapide et des histoires sans grande profondeur. Pourtant, en 1905, les lecteurs du New York Herald vont découvrir dans leur supplément du dimanche une nouvelle série qui ne va plus se contenter de les faire rire, mais qui va injecter dans le monde du comic strip de la poésie, de l'onirisme et des thématiques un peu plus riches que celles que l'on pouvait trouver en lisant Pim Pam Poum ou The Yellow Kid. La grande nouveauté de ce Sunday strip vient du monde fantastique dans lequel l'auteur Winsor McCay plonge son héros. Un monde fluctuant comme les rêves, à la géographie changeante et merveilleuse et à la population toujours surprenante. Dans la première planche de Little Nemo in Slumberland, que livre Winsor McCay, nous découvrons le roi des rêves, Morphée, qui ordonne à l'un de ses serviteurs de faire venir dans son palais un petit garçon pour qu'il devienne le compagnon de sa princesse de fille. Le petit garçon en question, c'est bien sûr Little Nemo, qui nuit après nuit va tenter de rejoindre la princesse. Mais chaque semaine, le voyage vers Slumberland se révèle semé d'embûches et le rêve tourne court avec le réveil en sursaut de Nemo. Ce principe narratif, dicté par la limite d'une page par semaine, va être répété tout au long de la série, dont chaque planche se termine immanquablement par le réveil du dormeur. Mais malgré le risque de répétition que ce procédé aurait pu provoquer, la série parvient à se renouveler sans cesse, grâce entre autres choses au génie graphique de McCay. D'un épisode à l'autre, Nemo visite Slumberland, l'étrange pays du sommeil. Il explore les planètes du système solaire, croise la route de créatures fantastiques, dragons de mer, dinosaures ou sirènes, et rencontre une galerie de personnages hauts en couleur. Les décors qu'il traverse fourmillent de détails et constituent une véritable révolution visuelle pour l'époque. Souhaitant s'approcher au plus près d'une authentique expérience onirique, Winsor McCay joue avec les transformations, les déformations, des lieux, des personnages et des objets. Le lit du rêveur devient tour à tour un navire, un vaisseau, ou une créature vivante aux jambes immenses qui gambade au-dessus des villes. Artiste psychédélique avant l'heure et architecte des rêves de son héros, McCay excelle autant à créer des mondes fantastiques de contes de fées qu'à reproduire l'architecture new-yorkaise qui l'entoure au quotidien. De l'utilisation de la couleur au découpage novateur de ses planches, l'auteur se révèle être un grand peintre et donne naissance à un véritable chef-d'œuvre. Mais malgré ses qualités indéniables et le succès rencontré par la série, qui connaîtra des adaptations en comédie musicale et en film d'animation, les aventures de Little Nemo prennent fin en 1926. Et en dépit de plusieurs tentatives de reprise par de nouveaux auteurs, personne ne réussit à retrouver la grâce de Winsor McCay. Redécouvert dans les années 60, Little Nemo in Slumberland est considéré depuis comme l'un des plus grands classiques de la bande dessinée. Un vrai monument à la beauté et à la modernité impressionnante qui continue plus de 100 ans après sa première publication à toucher, à surprendre et à fasciner.
Shabam! Pow! Blanc! Whizz!